La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Fred Veil, Cyril Linette, Olivier Giraud. Nous sommes en direct du stade Charletti et le record va être établi dans quelques instants. Le record RMC, Pierre Thévenet.
À l'instant, on va traverser la ligne d'ici quelques secondes. C'est Olivier qui a l'honneur de venir passer cette ligne. Il va transmettre le relais après 874 tours réalisés. Le voilà, ce passage, 350 km effectués en un peu plus de 20h et 7 minutes. Olivier qui a donc passé le relais à la collègue de son équipe qui va pouvoir continuer. Évidemment, on ne s'arrête pas là, on continue jusqu'à 14h. Le but maintenant, c'est d'exploser ce record, le faire monter le plus haut possible. Nouveau record rétabli, 875 tours réalisés, 350 km en 20h et 7 minutes ici à Charletti.
Et évidemment, tous les coureurs vont tenter d'aller chercher les 400 km maintenant. Pierre Thévenet, on suit cette course avec toi ici en direct du stade Charletti à Paris. Alors, les grandes gueules du sport, dans quelques instants, la Ligue de football professionnel qui a sorti le plan C, le plan D des cartons cette semaine. Une chaîne 100% Ligue 1 à 25 euros. Est-ce une folie? Ce sera le bras de fer des GG dans quelques instants. 10h30, Alexander Zverev a disputé un drôle de Roland Garros, car dans le même temps, lui qui se qualifie pour la finale, qui disputera aujourd'hui, vous le savez, et bien dans le même temps à Berlin avait lieu son procès en appel pour violence conjugale. Cette affaire ternit-elle la finale du tournoi parisien? Et puis 11h, la seconde DGG autour de Didier Deschamps qui va aborder sa 6e grande compétition dans quelques jours. C'est l'Euro 2024, lui qui est assuré d'aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Un sélectionneur doit-il être sous pression? Vous n'êtes pas d'accord les GG, et on en débattra donc à partir de 11h. On va débuter avec cette citation de Serge Jusant qui a dit un jour, entre la folie et le génie, la frontière est mince.
RMC, le bras de fer GG.
Quel est le juste prix de la Ligue 1? Si jamais il n'y avait pas de solution pour les droits télé, la Ligue pourrait créer sa chaîne. Ça coûterait 25 euros par mois pour l'intégralité des matchs de Ligue 1.
Je ne crois pas du tout qu'on soit en situation aussi forte que celle que vous imaginez.
Tu bluffes, Martini.
Je ne suis pas certain que dans quelques jours, il n'y ait pas une offre d'Amazon.
Il n'y a pas l'air de bluffer là quand même.
Je ne suis pas certain que le foot soit sur Canal l'année prochaine.
Si, si, il bluffe là, ça se voit tout de suite.
Et voilà, on a les droits. Oulalalalala. Et pour pas cher à mon avis, il a marché à fond le gars.
Oh oui, pour pas cher, à notre avis aussi. Alors, cela devait juste être un moyen de pression, un chiffon rouge que l'on pouvait agiter pour attirer les millions. Et finalement, le plan C est en passe de devenir le plan A dans le dossier des droits TV, incapable de trouver un diffuseur pour la Ligue 1. La Ligue de football professionnel veut créer sa propre chaîne, 100% Ligue 1. Évidemment, le prix envisagé, 25 euros par mois, est-ce de la folie? C'est notre débat aujourd'hui dans le coin gauche. La team oui, Cyril Linette, Christophe Cessieux. Dans le coin droit, la team non, Fred Weiss, Olivier Giraud. C'est donc un 2 contre 2. Pour l'instant, au niveau du sondage, c'est sans appel. Je vous en parle dans quelques instants. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste droit télé, journaliste RMC Sport, Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Bon, nous sommes le 9 juin, la reprise de la Ligue 1. C'est dans 2 mois. C'est quoi le plan?
Eh bien, c'est ce que la Ligue appelle aujourd'hui son plan B. Le principe est très simple, la création d'une chaîne 100% Ligue 1 éditée par beIN Sport, distribuée le plus largement possible par les opérateurs comme Bouygues, Free et Orange. Pour les dirigeants de la Ligue, ce projet peut générer des revenus minimums d'environ 540 millions d'euros la première année, jusqu'à plus de 800 000 saisons suivantes. Un objectif ambitieux pour l'instant, vise un parc de 2 millions d'abonnés. Le prix envisagé, tu l'as dit, 25 euros par mois sur 10 mois. La grande majorité des présidents convaincus par cette solution veulent rapidement la développer, sauf que rien n'est fait. Ça marche du côté des présidents de ligue comme Pierre-Olivier Murat à Rodez. Pour lui, c'est le sens de l'histoire de réaliser un tel projet avec l'ensemble des matchs réunis au même endroit sur une même chaîne. Je le cite, c'est le top pour le consommateur. Ce matin, Vincent Labrune revoit ses ambitions à la baisse concernant le montant de ses droits. Oubliez le milliard visé l'été dernier pour le patron de la Ligue. Le championnat de France vaut maintenant 500 millions d'euros.
Oui, en effet, revue à la baisse. Merci beaucoup Arthur Perrault pour ces précisions. Tu restes avec nous pour ce débat si tu veux nous apporter des précisions. Sachez que vous entendrez dans quelques instants Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, qui est venu voler au secours hier du président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune. Est-ce de la folie, oui ou non? Vous a posé cette question sur le compte Twitter des grandes gueules du sport et pour l'instant c'est sans appel. Hein. 87% oui, c'est de la folie. 13% non, ce n'est pas de la folie.
Fred Weiss. Et c'est ça, c'est des gens qui vont payer. Hein. Donc ça veut dire que pour 87%, c'est trop cher.
Exactement. Fred Weiss, Olivier Giraud, vous avez beaucoup de travail à faire. Ouais, pourquoi c'est pas de la folie?
Ils sont pleins de sous, donc eux, ça les dérange pas de mettre 25.
Non, mais Olivier Giraud. C'est hyper intéressant qu'avant qu'on commence le débat, qu'on dise déjà ce sont les gens qui payent. Donc de toute manière, c'est complètement populiste le moment où tu payes. Quand tu es client, tu veux payer le moins cher possible. Donc l'économie réelle d'une organisation, ça ne t'intéresse pas du tout. Donc avant de dire, ça s'appelle le sophisme ça, juste dire vous allez payer plus cher, vous allez accepter de payer plus cher. Automatiquement 90% des gens vont dire non, moi je veux payer moins cher. Mais l'économie réelle du football aujourd'hui nécessite ce genre de formule, surtout quand on arrive là.
Ça veut dire que tu fais peser ton économie qui est délirante sur le consommateur.
Non, ça fait 20 ans qu'il aurait fallu s'en rendre compte que ce qu'on a laissé faire pendant ces 20 ans aujourd'hui nous emmène à ces solutions là. J'ai toujours dit que payer plus un joueur ça le fait pas mieux jouer au football.
Ça va s'arrêter.
C'est à dire qu'à un moment quand tu crées un club, qui va vouloir prendre un club de football aujourd'hui? C'est-à-dire que avant l'économie, elle était basée aussi sur tes spectateurs. Aujourd'hui, l'économie que te rapportent tes spectateurs dans un stade, c'est infime dans le budget d'un club. C'est-à-dire qu'on a accepté qu'à un moment, 80% des revenus d'un club venaient des droits télé. Surtout pour les clubs qui montent. On va exclure le PSG. Donc aujourd'hui, tu vas te retrouver dans un conseil d'administration où des gens anticipent même. C'est-à-dire que quand on te dit que tu vas toucher en milliards, ils sont déjà en train d'acheter des joueurs sur le milliard qui n'existe pas. On a oublié aussi que la manière de diffuser a énormément changé. C'est-à-dire que avant c'était un abonnement, un foyer. Aujourd'hui, avec les types d'abonnements qu'il y a à la fois sur Netflix, sur Canal+, c'est un abonnement égale 6 foyers. Donc en fait, ton économie réelle est complètement en train d'exploser. Le seul moyen d'y revenir, c'est d'avoir une économie réelle où il y a un abonnement, un foyer. Et même si ça choque, aujourd'hui, c'est la seule solution pour la Ligue. Et je comprends que personne n'ait envie de le payer. Mais aujourd'hui, économiquement, c'est le seul moyen qu'on puisse faire vivre le foot français. Donc, je ne parle pas aujourd'hui de la 5G, de la 6G, avec la possibilité d'avoir des adresses IP à l'extérieur.
Non, on ne va pas en parler dans cette émission parce que là, tu m'as perdu. Mais on a bien compris, pour toi, c'est de la folie, mais c'est nécessaire en tout cas.
Ils n'ont pas le choix.
C'est raisonnable. Ok, ils n'ont pas le choix. Cyril Linette.
Alors, je vais me permettre un dégagement peut-être un petit peu long, mais moi, je dirais que à 25 euros, alors c'est important pour les auditeurs, ça n'a strictement aucune chance de réussir. Aucune chance. Ça correspond exactement au double de ce que vous payez pour Netflix, pour des milliers de films ou de séries, pour les kiosques numériques pour lire la presse ou pour Spotify pour toute la musique. Là, on parle d'une vingtaine de matchs, 40 matchs avec 40 heures de programme sur 3 jours le week-end. C'est un prix qui est complètement hors de propos, même avec un seul diffuseur. J'entends aussi qu'ils sont prêts et qu'on va créer une chaîne de télé. Mais une chaîne de télé, c'est important de le savoir. On n'est pas simplement... Peut-être.
Oui, Cyril. Fini, on est en train. On est en direct. On est en train d'installer la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.
Je reprendrai peut-être après.
Exactement. Alors, okay. Exactement. On va suivre le débat sur les droits télé.
Je reviendrai. OK.
Merci beaucoup, Madame la ministre Amélie Oudéa-Castéra, de venir ici au micro des grandes gueules du sport sur RMC. Évidemment, c'est une période de réserve en raison des élections européennes. Donc, on n'aura pas beaucoup de questions à vous poser. On ne s'engagera pas dans la politique. C'est de coutume en ce week-end. Un mot déjà sur votre record, sur le record RMC, vous venez d'y participer, c'était comment ?
Génial, de faire ce tour de piste comme ça à Charletti sous soleil pour contribuer à ce record magnifique, hein, ce relais qui est là, qui a démarré hier à 14h, pendant 24 heures, on est en train de battre ce record, c'est formidable de partager cette joie comme ça, de mettre le sport à l'honneur. C'est vrai que c'est évidemment une grande année avec nos jeux, mais c'est aussi une grande année parce que c'est la grande cause qui est vraiment dédiée à la promotion de l'activité physique et sportive. On met le sport à l'honneur tous ensemble en vivant un grand moment de partage.
comment ça s'est passé dans votre foulée et comment vous vous êtes senti, parce que forcément les échéances, même pour vous, ne sont pas sportives, quoique ça va quand même être du sport aussi pour vous. Comment vous vous êtes senti? Est-ce que c'était une bonne préparation?
Plutôt pas mal, le rythme était là. Bon, je fais un peu de sport chaque matin, j'essaie d'avoir cette routine là pour démarrer la journée, et ça maintient en condition, et c'était pas si mal.
Okay, vous a vu vous échauffer quand même, hein. Faut pas se claquer comme
non,
ça dans
non,
notre...
Non,
c'est
bah
pas,
non,
c'est pas le moment de se claquer. Ouais. À la bonne période.
Nous sommes à quelques jours des Jeux Olympiques. Là, on voit, vous avez le sourire. Comment ça se passe pour vous? Comment ça se prépare? Est-ce que vous êtes satisfaite pour le moment?
On est vraiment à fond. Chaque jour est important. Je crois que c'est la J-47 ce matin. Chaque jour va continuer de compter, mais on est bien dans nos temps de passage et tout ira bien.
Je sais que vous êtes avec nous juste quelques secondes et merci de vous être arrêté au micro des RMC dans les grandes gueules du sport. Nous sommes en train de parler des droits télé. Je ne vais pas vous prendre à défaut, mais juste une réaction. Est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui à deux mois de la reprise de la Ligue 1 sans droits télé?
Le travail continue.
Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être venue avec nous sur RMC. Vous qui venez de participer au record du monde que nous venons d'établir.
Merci à vous et merci d'accompagner comme ça cet événement.
Et nous serons là pour les Jeux Olympiques également, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 avec la Ministre des Sports. Les droits télé, le travail continue. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, Cyril.
Non, mais à 25 euros, je le redis, mais à 25 euros, vous n'avez aucune chance de réussir, même avec un seul abonnement.
Mais qu'est-ce que tu dois faire alors? C'est la question. Est-ce que l'immobilisme, c'est pas plus de la folie que finalement tenter un truc, même si ça paraît cher?
Je vais l'expliquer. 25 euros, c'est impossible, c'est le double de Netflix, d'Amazon, de Spotify et autres, c'est pas possible. Deuxièmement, une chaîne de télé, c'est pas acheter une régie, comme je l'ai lu dans la presse, ou avoir une rédaction. C'est de l'abonnement. L'abonnement, c'est de la fidélisation, du recrutement, c'est un vrai métier du marketing qui coûte beaucoup d'argent. Donc il faut compter que les coûts vont fortement augmenter. C'est pas simplement des coûts liés au paiement des salaires des journalistes ou des réalisateurs. C'est très très cher de créer un business d'abonnés. Ça, je ne le lis nulle part. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le problème du foot français, et Olivier l'a dit, c'est qu'il résonne complètement à l'envers. C'est-à-dire que quand on crée un business, et je vais y venir, Fred, quand on crée un business, on se dit d'abord, j'ai un produit, il y a un marché, et je vais voir comment je vais pouvoir le vendre, et on verra le résultat financier au final. Là, on part du contraire. Ce qu'a très bien expliqué Olivier, on dit, il nous faut tant. Et on va voir un diffuseur, on dit, il nous faut tant. Le diffuseur dit, c'est trop cher pour moi. Là, on va aller voir les clients, on va leur dire, il nous faut tant. Il faut que vous mettiez 25 euros. Le client va faire la même réponse, il va dire, ça ne marche pas. J'ai connu ça au PMU, c'était le même système. On dit au patron du PMU, il nous faut 800 millions par an, c'est d'ailleurs les mêmes montants à peu près, pour la filière hippique. Le PMU y arrive, mais le PMU, c'est une société commerciale avec un réseau de distribution, avec du marketing. Il a ce savoir-faire que n'ont pas du tout les équipes de la Ligue. Du côté de la gouvernance du foot français, ça fait 20 ans qu'on ne comprend pas ça, qu'on est dans un aveuglement lié à des droits surpayés en raison d'un contexte concurrentiel qui n'existe plus. Or, l'intérêt pour le foot de club est bien moindre. On n'est pas dans le Big Five et les résultats en Coupe d'Europe en témoignent. On n'est pas au niveau de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Allemagne ou de l'Espagne. On n'y est plus, on n'y est pas du tout. Et enfin, je termine, dans l'économie en général, tout ce qui est moyen est vendu cher, périclite. C'est vrai dans la chaussure, c'est vrai dans l'habillement, c'est vrai dans l'hôtellerie, c'est vrai dans la restauration. Il y a deux choses qui fonctionnent. Il y a le premium, le luxe, et il y a le low cost, il y a du pas cher. Donc la solution pour la Ligue et pour le football français, c'est d'enfin comprendre que son vrai montant, c'est peut-être 300 ou 400 millions d'euros, que l'endroit où on se situe, c'est très loin des quatre premiers, mais très au-dessus de tous les autres, ce qui était la crainte de Vincent Labrune à l'origine. Et c'est soit de se livrer à un diffuseur pour ces montants-là, soit de lancer une chaîne, mais avec ce type d'ambition-là, en disant, ce sera peut-être 200, ce sera peut-être 300 millions par an, mais au moins on va remassifier les audiences, on va retrouver des audiences importantes, on va faire une chaîne à 8-10 euros qui va intéresser les plus jeunes, et derrière on pourra peut-être monter en gamme. Mais 25 euros, c'est impossible, à tel point que je continue de penser que c'est une opération de communication.
Mais Cyril, si la Ligue a réussi à rassembler 300-400 millions, on va complètement décrocher, déjà qu'on est décroché des 4 autres championnats, là on sera la 4e division européenne. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un seul joueur dès la première année de contrat, ils vont partir ailleurs.
Ça changera quoi?
Vraiment low cost.
Ça changera quoi? Oui, mais Ça changera quoi d'abord? Ça changera quoi au niveau des... Voilà, on se compare à l'Italie, on a gagné 2 Coupes d'Europe, l'Italie en a gagné 31. Ça changera quoi au niveau européen? Quasiment rien. Ça changera quoi au niveau de la qualité de jeu? C'est quelque chose qui est assez peu perçu finalement par l'abonné. Quand on va mal, on se recentre. Se recentrer, c'est se dire, plutôt que de créer cette économie artificielle, c'est de se dire, voilà, nous, notre championnat, il vaut 300 millions d'euros. Comment est-ce qu'on fait pour réussir
Moins tu fais de rentrée d'argent, Cyril, moins tu vas avoir des bons joueurs, moins tes joueurs seront bons, moins ton championnat vaudra de l'argent. Et à un moment, moi,
il y a d'autres leviers, il y a la formation.
Je comprends ce que tu dis, mais et je te rejoins sur un point. Moi, pour moi, c'est une opération de com. C'est pour dire, en gros, c'est pour dire au président de club, les gars, vous pouvez voir la DNCG parce que l'objectif c'est ça, etc. Le deuxième, c'est de dire revenez à la table parce que finalement on a baissé les prix et ça peut être intéressant. Mais aussi, je pense que je me répète, mais l'immobilisme pour moi c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que ne pas bouger, ne pas tenter un truc,
entièrement
c'est catastrophique.
Je suis resté dans le moyen, c'est ce que je viens de dire. Rester avec un produit moyen et se dire je vais continuer à le vendre cher, c'est la disparition à moyen terme du football français. La vraie solution, c'est de se dire ok, aujourd'hui on n'est pas un produit complètement premium. Mais on est un produit populaire, c'est de revenir à cette base populaire et à mon avis de vendre
le prix. Et tu penses vraiment que le prix va faire une différence pour moi, t'as 1,7 million, 1,8 million de personnes qui vont s'abonner, mais qui mettront peut-être pas plus, mais qui mettront pas, il y aura pas plus de personnes parce que
c'est moins cher. Ils monteront déjà à 10 et t'auras déjà un bassin d'abonnés d'1,5 million. C'est déjà beau pour le foot français.
Ce qui est très beau. Sauf que c'est pas suffisant physiquement, financièrement, encore une fois.
À 25 euros, t'auras 200 000 abonnés. Donc t'auras pas l'argent et t'auras plus non plus d'audience, t'auras plus de visibilité, comme quand tu pars chez Amazon où tu divises tes audiences par 5 par rapport à Canal. Au moins, avec une solution financièrement drastique, tu peux recréer les conditions de recrutement de ta clientèle la plus fidèle.
Tu peux espérer.
Exactement.
Alors, moi qui crois beaucoup en la causalité, on a intérêt d'avoir un sacré montant. Parce que on parle de la manière de consommer de ceux qui regardent le foot. Mais il va falloir s'intéresser très rapidement à la manière dont un joueur de foot organise sa carrière aujourd'hui. C'est-à-dire que le joueur de club n'existe plus. Tu parlais tout à l'heure du centre de formation. Ce qui va se passer, c'est que si les montants baissent de manière drastique, en fait, la France, le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, vont devenir les centres de formation, ils le sont déjà un petit peu, des autres championnats. Et encore plus grave, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés. On en rigolait un petit peu à l'Arabie Saoudite quand on voit des N'Golo Kanté qui joue à la fois en Arabie Saoudite et qui joue en équipe de France. Ce type de mouvement et de comportement va arriver de plus en plus souvent. Et vous verrez que dans quelques années, si on continue comme ça, un jour même le championnat américain, ce qu'on n'aurait jamais imaginé un jour, il arrivera à être meilleur que le nôtre.
Mais Olivier,
parce que leur économie, ils l'ont travaillé de manière plus prégnante que la nôtre.
Et un jour, quand il faudra choisir entre acheter le championnat de France et le championnat d'Arabie Saoudite, des opérateurs étrangers choisiront l'Arabie Saoudite. Mais il faut arrêter de se voir plus beau qu'on est, d'aller faire des matchs en Chine. Là, j'explique. Je disais qu'on allait aller faire des matchs à l'étranger parce que la FIFA le projette et la Ligue 1 se dit on va aller jouer des matchs à l'étranger. Mais revenons sur terre, en fait. Redescendons sur terre.
Il ne faut pas non plus se sous-évaluer. C'est ça le problème. C'est que si tu sous-évalues, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent par définition, c'est un cercle vicieux.
Quand une entreprise, le foot français, le sport français ne raisonne jamais d'un point de vue business. Quand une entreprise est en difficulté, elle commence par se recentrer, elle baisse ses coûts, elle baisse ses charges, elle se recentre sur sa clientèle de base. Des passionnés de foot, les 1,5 million, c'est à ceux-là qu'il faut d'abord donner un signe. Leur donner un signe, ça leur permet d'accéder à la Ligue 1 de manière facile. D'où, effectivement, peut-être négocier avec un seul diffuseur. Ces idées-là que j'entends beaucoup circuler dans le football français sont de bonnes idées. Soit avec un seul diffuseur, soit effectivement avec ta propre chaîne. Déjà, tu donnes un signe, tu rassembles ton public captif. Et après, tu vois. Mais il faut faire attention parce qu'à 25 euros, ce dernier...
Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. C'est ça le problème. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est que tu vas avoir tes 1,5 million et tu ne gagneras personne de plus et ce sera fini. Tu seras bloqué.
Si, parce que tu peux avoir moins de... Par exemple, Canal, quand il met très cher, il bloque beaucoup la visibilité des droits sur le digital. Canal a aussi une manière d'être, une manière de faire qui est un petit peu datée par rapport aux droits. Avec ta propre chaîne ou avec un diffuseur à qui tu demandes moins d'argent, tu as peut-être moins d'exclusivité à tenir pour le diffuseur. Tu peux peut-être jouer beaucoup plus ta visibilité digitale. Ta visibilité digital, c'est la visibilité pour aller chercher d'autres...
La nouvelle façon de consommer aussi.
Exactement, c'est la nouvelle façon de consommer. Tu rentres dans un truc moderne, mais il faut accepter de te vendre pas cher. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution.
Attention, il faut regarder quelque chose de près aussi qu'on est en train d'oublier. Hein. Les 500 millions, là où c'est dangereux, c'est qu'il y a de l'argent à payer. C'est-à-dire que tout le monde a oublié ses WC. Il y a quelqu'un qui va leur poser la question s'ils sont capables de rogner sur leur marge à ce.
Il y a 12%, à, non, à le contrat est signé, hein, 12%
donc,
par saison.
Donc la réalité, c'est que c'est pas la vraie somme, hein, qui est là. Il y a une partie à enlever aussi de ces WC.
Ils peuvent aussi avoir un peu cette vision stratégique et justement dire, parce que je pense qu'ils ont cru au départ à.
Ah, ils y ont cru au milieu.
Tout le monde y a cru.
Mais rappelez-vous comment la Ligue, c'est très intéressant comment la Ligue s'y est prise pour s'allier à ces WC. Elle a dit, c'est Pierre Maes qui m'a rappelé ça dans un petit échange qu'a écrit le bouquin là sur la ruine du foot, qui est très très bon. Pierre qui me disait ça, elle a dit au fonds d'investissement, on a besoin d'1,5 milliard, combien vous voulez de part du foot en échange. C'est le même système, c'est-à-dire qu'on met d'abord le montant en avant et derrière on espère qu'on trouvera un fonds d'investissement, un client, un diffuseur.
Alors,
c'est pas comme ça que ça.
Pour finir, moi, un dernier mot que je pourrais dire, c'est ce qui m'inquiète réellement, je le dis depuis 20 ans, quand le foot commence à tousser, c'est tous les autres sports qui ont la grippe. Et que là, on est en train de parler de la décadence des droits télé du foot. Il faut regarder aussi maintenant des sports qui.
Ne me regarde pas. Ne me regardez pas.
Je suis pas d'accord avec vous, Olivier. Aujourd'hui, le rugby qui est resté raisonnable monte tranquillement en droit télé. Appel d'offres.
Ils n'ont pas manqué de respect à Canal.
Et ils construisent leur produit.
Ah, oui, ça, oui. C'était la grave erreur du foot.
Et le rugby a un triple avantage sur le foot. Un public, et Christophe en est témoin, plus âgé. Il est plus âgé, public du rugby, donc a plus d'argent.
Avec plus de moyens, ouais.
Un public beaucoup plus CSP+, avec plus de moyens, et un public un peu moins supporter.
Et fidèle.
Qui s'intéresse globalement au top 14, de manière un peu moins prononcée qu'à ses clubs, alors qu'en foot, on est vraiment avant tout supporter d'une équipe.
Tu parlais juste, Cyril, d'une opération de communication de la part de la Ligue, mais tout de même, est-ce que tu penses très rapidement que le plan A reste et devient maintenant la chaîne? Ou non.
Non, je pense pas. Je pense que ça reste de la com. Fred a parlé de la DNCG. Je pense qu'on voit Jean-Michel Aulas ce matin, c'est pas un hasard, qui dit il faut quand même
Il lance un appel à Canal, et Canal va revenir dans le jeu, Cyril.
L'histoire des 25 euros, je pense que ceux qui connaissent bien la télé payante, je pense que ça les fait hurler de rire. Oui. Je le dis franchement, ça les fait hurler de rire. Après, je ne peux pas parler à la place des dirigeants de Canal. Je suis parti de Canal il y a 10 ans, mais je pense qu'avoir un bout de Ligue 1, par exemple dimanche soir. Avec l'OM qui fera pas la Coupe d'Europe, peut intéresser Canal, mais je ne suis absolument
pas à ces prix-là.
À 100 millions d'euros.
À
100 millions pour 100 Canal millions. Je ne sais pas, 150, je ne sais pas.
Ok, en tout cas, le feuilleton se poursuit et c'était important de décrypter cette semaine avec vous, les GG. Vous entendez le coup de sifflet, c'est le moment de vous inscrire. Votre dernière chance pour tenter de remporter la totale du coffre Euro 2024. Un grand gagnant sera dans cette émission. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour vous inscrire, pour envoyer coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. On revient dans quelques instants pour vous parler de Sacha Zverev qui va disputer la finale de Roland dans quelques heures. Et il y a son procès, mais qui vient de se terminer. On s'empare du dossier dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, de retour sur RMC avec ce record du monde qui est tombé il y a quelques minutes. Vous l'avez vécu en direct sur RMC. Nous sommes en direct du stade Charletti pour cette course, ce record du monde. Bravo à tous les athlètes. Il y a quelques instants, même la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a fait son tour de piste. Elle était en direct dans les grandes gueules du sport. Toujours avec Christophe Cessieux, Fred Veil, Cyril Linette, Olivier Giraud. On fera un point avec Pierre Thévenet dans une poignée de secondes sur ce record du monde. Où en est-on actuellement? Sachez que dans une dizaine de minutes, on prendra la direction de Rome pour vous parler des championnats d'Europe d'athlé avec de très bonnes nouvelles côté français et puis surtout aussi Kevin Mayer qui va tenter demain et mardi d'accrocher les minima pour ces Jeux Olympiques. Ça c'est dans 10 minutes. Un procès terminé, une finale à Roland-Garros. C'est un drôle de week-end pour Alexander Zverev, une drôle de quinzaine même. Il y a une semaine, en plein Roland, donc, son procès pour violence conjugale avait débuté au tribunal de Berlin. Le numéro 4 mondial était accusé par son ex-compagne de l'avoir étranglé avec les deux mains dans la nuit du 20 au 21 mai 2020 dans la cage d'escalier d'un immeuble berlinois dans le cadre d'une dispute. Vendredi, juste avant sa demi-finale face à Casper Ruud, on apprenait que les deux parties avaient finalement trouvé un accord à l'amiable, un accord validé par le tribunal, qui a donc abandonné le procès. Aucun détail de l'accord financier n'a été dévoilé. Ses avocats ont juste dit ceci. Alexander Zverev est toujours considéré comme innocent. Le règlement financier n'entraîne ni un constat de culpabilité, ni un aveu de culpabilité. Rappelons que le joueur allemand avait déjà été jugé en première instance en octobre dernier et condamné à une amende de 450 000 euros pour coups et blessures. Ce n'est cependant pas la première accusation à laquelle Alexander Zverev fait face. En 2020, une autre ex-compagne, une joueuse de tennis russe, l'avait aussi accusé sur les réseaux sociaux d'avoir essayé de l'étrangler avec un oreiller, de lui cogner la tête contre le mur et de lui tordre les bras. L'ATP avait fermé l'enquête en janvier 2023, faute de preuves suffisantes. Après sa demi-finale remportée, Zverev a été interrogé sur cet accord à l'amiable. Circulé, il n'y a rien à voir, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Je suis heureux que ce soit terminé. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est fini, on avance. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça.
La question dans les grandes gueules du sport ce matin, est-ce que cette affaire ternit la finale de Roland-Garros? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Bah, c'est pas terrible pour la promotion du tennis quand même.
C'est pas terrible. Cyril Hinette.
Oui.
Oui. Olivier Giraud.
Oui et non, tout comme toujours. Il y a de la nuance.
Il y a de la nuance, surtout sur ce débat, tu as raison.
On a droit à faire ça, oui et non?
Sur ce débat, sur un débat judiciaire, parfois on peut. Même si on le dit.
J'essaierai de m'en expliquer.
Je suis d'accord, mais je ne sais pas qu'on a le droit.
Tout le monde ne peut pas faire Denis Charvet, faites attention. Fred Weiss.
Oui.
Oui, là il n'y a pas de nuance. On va retrouver notre journaliste RMC Sport en direct de Roland-Garros, Léna Marjac. Bonjour Léna.
Salut JC, salut à tous.
Tu as passé la quinzaine dans les travées de Roland-Garros. Est-ce qu'il a beaucoup été question de cette histoire?
Alors dans les tribunes, c'est comme si de rien n'était. Aucun cri entendu, ni même de messages ou de pancartes vues à son encontre pendant la quinzaine. À chaque fin de match, Alexander Zverev est applaudi, même ovationné. Ça a été le cas lors de sa qualification en quart de finale. Un public debout et lui le sourire et la main sur le cœur vers les spectateurs. Pour autant, dans les allées du Grand Chelem parisien, les spectateurs interrogés ne veulent pas trop en parler. Certains ne sont même pas au courant de cette affaire judiciaire concernant le quatrième joueur mondial. D'autres sont tombés de haut en apprenant les accusations, mais ne veulent pas forcément lui en tenir rigueur.
Lorsque j'ai su, j'ai été vraiment très choquée. C'est un joueur, malgré tout, il est exceptionnel en tant que joueur. Il faut quand même lui laisser une chance, surtout que la justice l'a présumé innocent.
Alors finalement, c'est un sujet dont on parle plus entre nous, journalistes, en conférence de presse, plusieurs fois, avant, pendant et à l'abandon du procès. Zverev a été interrogé sur ce sujet, mais alors pas forcément par la presse allemande. Pour avoir échangé avec un confrère de la radio allemande, eh bien c'est un sujet qui a été que très peu traité à leur antenne. La raison, Alexander Zverev intéresse peu dans son pays, en tout cas très peu en dehors de ses résultats sportifs. Les Allemands ne se sentent pas forcément très très proches de ce joueur, parce qu'il n'a pas aussi l'aura que pouvait avoir à l'époque un Boris Becker, 6 fois vainqueur en Grand Chelem, où lui, ses affaires judiciaires ont été au cœur des actualités.
Merci beaucoup Léna Marjac pour ces précisions. Cette affaire ternit-elle la finale de Roland? C'est plutôt oui pour Christophe Cessieux.
Moi, ce qui me surprend, c'est imaginer qu'il s'agisse là d'un acteur, d'un journaliste, d'un réalisateur. Ça aurait fait la une de tous les journaux. Et là, parce que c'est un sportif qui est pas très 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 connu en fait finalement en Allemagne.
Pas finaliste
très...
de Roland quand même.
Ah ouais, mais en fait tu vois, ce que Léna disait, c'est qu'il est pas très bankable en Allemagne. Il est beaucoup moins populaire qu'un Becker. Le truc est passé sous silence. C'est quand même très étonnant, je trouve, parce que les accusations sont doubles. Il y a eu 2 affaires. C'est vrai que la justice a décidé parce que le système allemand le permet d'avoir un arrangement à l'amiable, c'est-à-dire que Zverev a payé finalement pour que les accusations soient retirées par sa compagne. Mais imaginez qu'il s'agisse là d'un acteur.
Je dirais tout simplement d'un joueur français.
Ou d'un joueur. Oui, oui.
Non, peut-être, mais enfin. Moi, je pense que c'est pas mal lié au fait que ce soit du sport. Et souvent, quand même, on met la poussière sous le tapis quand c'est le sport. Et encore un petit peu plus quand il s'agit du tennis. Et un sport, voilà. Et donc.
Tu sais, le basket, c'est le cas aussi, hein.
Ouais,
nous, on a Miles Bridges qui joue à Charlotte, qui a eu exactement la même chose, ça a été très compliqué pour lui. Il est revenu et il a tapé sa femme, il l'a étranglée. Ouais. C'était avéré, hein. Et en plus, il a jeté des boules de billard sur la voiture avec ses enfants à l'intérieur. Personne n'a rien dit. Il a purgé une petite peine NBA. En plus de la peine qu'il avait pris avec sursis par la justice, et il est revenu comme si de rien n'était, et tout le monde l'a applaudi. Et moi, je suis désolé, moi, je peux pas applaudir. Charlotte, c'est devenu mon équipe que je déteste le plus, parce que c'est inadmissible de réintégrer des gens comme ça. Alors les gens vont dire, oui, il a payé, ou alors dans le cas de Zverev, ouais, il est présumé innocent parce qu'il
a payé. Il a payé 200 000 euros, ça va pas.
Je suis désolé, mais non, c'est pas possible en termes d'image pour le sport, c'est catastrophique.
Et tu as raison.
Et pour Roland Garros aussi, évidemment.
Il y a eu des affaires comme ça aussi au niveau du foot. On en a parlé il y a pas longtemps au niveau du rugby. moi je pense qu'il faut faire un peu un distinguo entre le juridique et le symbolique. C'est pas un sujet facile. Juridiquement, effectivement, à partir du moment où il a d'abord été condamné sur, en Allemagne, sur une ordonnance pénale par un seul juge et qu'il fait appel devant une cour, eh ben, il redevient présumé innocent. Donc, comme l'a dit Amélie Mauresmo, il est présumé innocent pendant le tournoi. Bon, enfin, je pense symboliquement que c'est tout autre chose. Et pour moi, sa place durant ce tournoi de Roland-Garros, elle aurait plutôt dû être à son procès que disputant un tournoi de tennis. Donc, quand même, et en effet, dans. Alors parfois c'est l'autre extrême parfois dans d'autres secteurs. Moi aussi je suis quand même assez troublé par le fait qu'il ait pu disputer le tournoi normalement à l'occasion de cette affaire.
Avec sa petite déclaration disant je ne veux plus jamais avoir une question concernant le sujet. C'est affaire pliée, c'est terminé, vous passez à autre chose les gars.
C'est un trop facile, je suis d'accord avec toi.
Imaginez dans quelques heures Alexander Zverev remporte Roland-Garros, le cours central Philippe Châtrier plein, qui célèbre évidemment Alexander Zverev, alors qu'il y a aussi cette histoire. T'étais plus nuancé, Olivier, pourquoi ?
Ah, moi, je suis très nuancé sur ces sujets-là. Je vais reprendre ton truc des comédiens et des acteurs. On va essayer de ne pas comparer un truc qui était carrément systémique pendant 40 ans, voire 60 ans chez les acteurs, où le droit de cuissage était carrément ouvert et que heureusement qu'aujourd'hui, on en parle.
Arrivé avec les entraîneurs et les athlètes dans le sport, c'était pas systémique non plus.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que on va pas comparer quelque chose qui était carrément, je te le dis, systémique. Ils avaient des îles et tout.
Mais dans tous les domaines. Pas seulement dans le domaine. Tu me laisses parler. On ne parle pas de
droit de cuissage, même si c'est très grave. On parle de violence conjugale. De tentative d'étranglement.
Et c'est pour ça que je ne compare pas. Je ne compare pas les histoires individuelles et familiales des personnes. Et je ne juge surtout pas les couples, parce que quand ils ferment la porte de chez eux, tu sais pas ce qui s'y passe. Donc, par contre, moi, je crois beaucoup à la justice. Et quand quelqu'un est condamné, parce que les éléments réels d'une affaire, même d'un sportif connu, tu les connais pas. Donc, je ne prends pas parti.
D'accord, mais
tu ne prends pas parti.
Tu considères qu'aujourd'hui, pouvoir régler à l'amiable, c'est-à-dire
comme
payant
ça partout.
Non, pas dans le système français, Olivier.
Je peux te dire que ça arrive.
Non, mais dans le système français.
En tout cas, on ne va pas débattre du système. Mais si tu me dis,
oui, ça va ternir son image, on est en train d'en parler. Justement. Ça veut dire que là où on en parle le plus, c'est actuellement. Donc, automatiquement, ça va ternir son image. C'est-à-dire que c'est ce que nous faisons actuellement qui va ternir l'image et qui va mettre ça sur le tapis quand il va jouer à Roland-Garros. Ceux qui n'y ont pas pensé, on en a vu dans les spectateurs, et ben maintenant, ils vont y penser. Donc, vous vouliez un méchant dans vos confrontations. Eh ben vous allez le trouver, votre méchant, et on est en train de le fabriquer.
Ouais, mais Olivier,
c'est pas lui qui l'a fabriqué lui-même.
Non, mais quand on parle de méchant, on parle de méchant sportif. Hein. Voilà. Parce que là, on n'est pas sur le registre sportif.
Ouais, mais on n'est pas sur le registre sportif, mais il est englobé. Il est englobé dans la vie, comme à l'époque de McEnroe. C'est-à-dire que McEnroe, aujourd'hui, est adulé, on adore son nouveau reportage, mais sa vie extérieure influait énormément sur la manière dont on le regardait jouer.
On parle de violence conjugale, on parle de tentative d'étranglement de compagne, je suis très prudent. Donc pour moi, soit il est coupable, soit il est innocent. Exactement. Mais en tout cas, le fait que ce soit débattu pendant le tournoi de Roland-Garros aurait dû amener probablement l'ATP ou Roland-Garros à se poser la question de sa présence.
Il est accusé, tant mieux pour lui. Qu'il se soit débattu, que ce soit débattu, on aurait dû dire on attend justement la décision de justice. Alors il savait
pas. Je sais pas si Roland-Garros pouvait le faire ou l'ATP.
Mais quelqu'un, une instance, pouvait au moins décider de dire on attend qu'il y ait une décision de justice. Alors il ne peut pas deviner encore une fois qu'il y allait avoir un arrangement, mais au moins attend un moment pour savoir ce qu'il en est de cette affaire, parce que c'est un risque hyper important quand même qu'ils ont pris en le faisant jouer.
C'est un sujet qui est très touchy. Et moi, je suis toujours attentif aux dérives. Et pour qu'il n'y ait pas de dérives, je m'accroche toujours à la justice. Et surtout quand ce sont des procès sur la vie familiale et personnelle des sportifs.
On n'est pas en train de débattre de cette affaire. On débat des conséquences sportives et aussi sur notre tournoi parisien.
Parce qu'aujourd'hui,
les faits, c'est qu'un joueur qui va disputer Roland-Garros toute la semaine a été ennuyé judiciairement. Ouais. Ça, c'est un problème quand même.
C'est un problème, mais c'est.
En termes d'image, c'est un problème, Olivier.
C'est la réalité du sport d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a 30 ans, est-ce que tu connaissais quelque chose de la vie extérieure?
Mais c'est pas pour ça que c'était bien.
C'est pas pour ça que c'était bien, c'est pas pour ça que c'est moins bien, mais aujourd'hui ça fait partie du décorum et ça influe effectivement sur la manière dont on perçoit un joueur.
Tu parlais de sujets délicats, sujets touchy, on s'en empare tout de même dans les grandes gueules du sport et c'était important d'en parler ce matin.
Oui, avant mais nous fabriquons finale, le méchant.
Avant cette
Olivier, on fabrique le méchant.
Entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, ce sera à 15h et ce sera évidemment à suivre en direct, en intégralité sur RMC avec aux commentaires Eric Salio et Sarah Pitkowski. Pierre Thévenet est toujours avec nous en direct du stade Charletti pour le record du monde, ça y est. C'est fait, il est établi, mais on continue cette course parce que cette course va durer 24 heures, Pierre.
Exactement, il reste un peu plus de 3 heures de course. On a parcouru 359 km. L'objectif, on me l'a dit, nouvel objectif, passer la barre des 410 km d'ici à 14h. On arrive tout proche des 900 tours réalisés, 898 pour l'instant. Et on continue bien sûr à courir et surtout à ne pas faire tomber ce témoin, ce bâton qui annulerait tout. Même si on a déjà passé le record du monde, si on fait tomber le témoin, c'est terminé. La dame du Guinness Book vient d'en revenir, elle va observer ça de très près. Ces 3 dernières heures de course, 359 km parcourus. Le record est battu depuis tout à l'heure.
10h45, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On s'en fout pas, et notamment la dernière chance de Kevin Mayer. C'est à Rome, durant les championnats d'Europe. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h50 de retour dans les grandes gueules du sport avec Fred Veil, Cyril Linette, Olivier Giraud, Christophe Cessieux ce matin, toujours en direct du stade Charletti pour le record du monde RMC qui vient d'être établi, plus de 350 km en plus de 20 heures. Ça va continuer jusqu'à 14 heures, une course de 24 heures que vous pouvez évidemment venir voir, chers auditeurs, et venir admirer les grandes gueules du sport en chair et en os. À partir de 11h, on va parler de l'Euro 2024 et de Didier Deschamps qui va disputer dans quelques jours sa 6e grande compétition avec l'équipe de France. Il ne sera pas inquiété, quoi qu'il arrive, au bleu. Un sélectionneur doit-il être sous pression? C'est notre question et vous n'êtes pas d'accord. Les grandes gueules du sport. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Un peu pris par le temps, surtout une actualité à développer avec vous. Vous me direz et vous allez me dire si ça vous intéresse ou non et si vous avez envie de participer à notre discussion. La dernière chance pour Kevin Mayer à Rome. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Non, on s'en fout pas.
Cyril Linette.
On s'en fout pas.
Oh non, surtout pas. Fred Weiss.
Oh non, on s'en fout
pas. Oh non, Olivier Giraud.
Il y a quelqu'un qui va toucher à Kevin Mayer. Non, on s'en fout pas.
Tout le monde a envie de parler dans cette émission. Vous avez bien raison. Alors demain et mardi au championnat d'Europe, Kevin Mayer, le double champion du monde du décathlon, va tenter de décrocher enfin les minima pour les JO. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Rome, Aurélien Tiercin. Bonjour Aurélien.
Salut les GG, salut à tous.
Et c'est vrai que c'est un moment extrêmement important dans sa carrière. J'ai envie de dire sa fin de carrière, mais celui-ci va compter. Hein.
Ah, évidemment, il est double vice-champion olympique, ça l'obnubile d'avoir enfin cette médaille d'or et normalement les planètes devaient s'aligner puisque c'est à Paris, mais il n'a toujours pas les minima, il reste 20 jours simplement pour se qualifier. Kevin Mayer sait que le temps presse.
Moi dans ma tête, c'est dernière chance là. J'ai plus envie d'être dans l'esprit de me dire il y a encore des décathlons après, d'aller galérer, d'aller revoyager, etc.
Il n'a plus terminé un seul décathlon depuis 2 ans. Il a abandonné lors des mondiaux à Budapest l'année dernière. Il a voulu le tenter les minima en Australie en décembre dernier. Forfait. Il l'a fait à San Diego en Californie au mois de mars. Il était blessé. Normalement, le physique va mieux. Et Kevin Mayer est plutôt optimiste pour cette fois.
Je sais pas trop ce que j'ai sous les jambes. Je sais que je me sens bien à l'entraînement, etc. Tout ce que je sais, c'est qu'avec mon expérience et mon corps d'aujourd'hui, les minima sont pas un problème.
Les minima, c'est 8460 points, mais il peut aussi se qualifier avec un total de 8100 points grâce au ranking mondial. Alors Kevin Mayer ne se concentre que sur cet objectif qualification.
C'est un championnat d'Europe, je suis allé sur stade tout à l'heure, j'ai qu'une envie, c'est d'exploser la piste, pour être tout à fait honnête. Après, toutes les 5 secondes, je me répète, c'est les minima, c'est pas le titre de champion d'Europe, même si j'ai jamais été champion d'Europe, c'est pas l'objectif cette année.
Allez, demain, c'est le 100 mètres à partir de 10h du matin. On va quand même scruter son grand adducteur, son nerf sciatique qui le gêne encore un petit peu au 110 mètres haies. Mais à un moment ou à un autre, messieurs, dames, il va bien falloir y aller pour se qualifier aux Jeux Olympiques.
Exactement, et tu restes avec nous. On parlera d'une médaille d'or dans quelques instants, celle de Sirena Samba. Maïela, c'était quand même une surprise d'apprendre ça hier soir. Ce sera dans quelques instants avec toi. Mais déjà, restons un peu sur Kevin Mayer. Christophe Cessieux.
Ouais, je crois qu'il est l'heure d'arrêter d'écouter son corps. On sait que Kevin est un grand champion, mais qu'il a toujours été très attentif à la moindre pépin, à la moindre alerte. Là, malheureusement, à 20 jours des Jeux Olympiques, il n'est plus temps justement d'écouter son corps. Il va falloir qu'il lâche tout. Sachant qu'il n'aura pas la possibilité de récupérer si jamais il se blesse lors de ce décathlon, parce qu'on arrive trop près des Jeux. Donc c'est qui tout double, on l'a bien compris, pour lui c'est maintenant ou jamais. Donc on va être tous très très tendus quand même pour la tentative de Kevin.
Mais Christophe, moi j'ai une question, admettons qu'il y arrive et on le souhaite évidemment. Pour les JO, il a une mini chance encore en n'ayant pas terminé un décathlon depuis 2 ans, il va se présenter avec quel...
Et faire 2 décathlons en très peu de temps, c'est ça qui est un peu inquiétant, parce qu'on sait qu'il en fait en gros, il en fait depuis 2 ans, 3 ans, il en a fait un, je crois, c'est tout, incomplet. C'est plutôt inquiétant. Après, ce que tu dis,
il va lever le pied, Christophe. Hein. Il va lever le pied, justement. Il ne vise pas le titre de champion d'Europe pour regarder.
Est-ce qu'il est encore candidat à une médaille du décathlon olympique ou est-ce que
Bien sûr. Non. Il est capable largement de faire 8800 points, ce qui suffirait à monter sur le podium.
Ok, rapidement sur ce dossier.
Mais on espère vraiment qu'il le fasse. Et effectivement, le fait qu'il fasse 2 décathlons aussi rapprochés, de toute façon, même s'il se qualifie, ça nous inquiète un peu, forcément.
Et pour finir, s'il y avait un sportif qu'on n'imaginait pas être en difficulté et qu'on voyait automatiquement au jeu, c'était Kevin. Et ça serait une catastrophe, même pour les téléspectateurs, tout personne qui aime les Jeux Olympiques, qu'il n'y soit pas. Ça serait une anomalie.
Et après, il ne faut pas que la Fédé oublie de l'inscrire.
On en parlait la semaine dernière.
Mais ce serait bien quand même.
Et c'est le porte-étendard, évidemment, de l'athlète française. Mais c'est vrai, Aurélien, qu'il y a peut-être une jeune femme qui va nous épater aux Jeux Olympiques de Paris. En tout cas, elle a été très performante hier. C'est Sirena Samba Maïela.
Elle a été incroyable, 12-31, un chrono qui la classe parmi les 10 meilleures performeuses de l'histoire sur 100 mètres haies. Record de France explosé de Monique Evangépé qui datait d'il y a plus de 30 ans. Alors on attendait son explosion puisqu'elle était championne du monde et vice-championne du monde sur 60 mètres haies. C'était moins le cas en plein air, elle avait du mal à aller au bout de cette ligne des 100 mètres haies. Mais hier, elle a propulsé le 100 mètres haies féminin dans une autre dimension en France et elle était ravie évidemment de son premier titre en plein air. Donc championne d'Europe.
Le goût de l'or à nouveau, c'est juste fou. J'ai apprécié du début à la fin. Le public était fou. La course était incroyable. Chaque seconde, je les ai sentis descendre mes chronos en fait. Il fallait que je descende mes chronos. Ça passait par descendre les records de France. Je l'ai fait. Et je suis encore plus proche justement de l'objectif des Jeux. Et ça devient de plus en plus réel en fait.
C'est une magnifique performance et on va suivre évidemment son ascension et nous la suivrons durant les Jeux Olympiques de Paris. Demain, donc le décathlon qui commence pour Kevin Mayer. Merci beaucoup Aurélien Tiercin. Toutes les informations sur l'athlète, sur ces championnats d'Europe à retrouver sur rmcsport.fr. Évidemment, ce sera à suivre sur notre antenne dès demain. On revient dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. 10h56 avec Fred Veil, Cyril Linette, Olivier Giraud, Christophe Cessieux, Didier Deschamps, un sélectionneur. Doit-il être sous pression? Vous nous en parlerez, vous n'êtes pas d'accord les GG. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules du Sport.